Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut tout le monde.
Et de Dwayne.
Hello.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'Atlus. On enchaînera ensuite sur BioWare et Mass Effect Andromeda. Oui, je sais, encore une fois, mais promis, on va pas s'attarder dessus cette semaine. On évoquera également Steam et son programme Explorers. Nous enchaînerons ensuite sur Dishonored 2. On parlera de ces grands comiques que sont les développeurs de chez Gearbox. Et enfin, on terminera avec l'annonce de Microsoft concernant la Scorpio. Sans oublier notre jeu du moment, ATH l'a testé spécialement pour vous et Dwayne l'a commencé. C'est Horizon Zero Dawn, le dernier jeu en monde ouvert de Guerrilla. Allez, c'est parti et on va commencer, messieurs, avec Atlus. Alors ça ne vous aura pas échappé, n'est-ce pas? Persona 5 est sorti récemment. Et il se trouve que votre serviteur ici en profite pleinement, n'est-ce pas? Mais y a un petit problème avec Atlus. Si par hasard vous possédez une chaîne Twitch et que vous aviez, envie de streamer le jeu, quoi, parce que vous, il y a un jeu que vous aimez, vous avez envie de le partager avec les autres, vous voulez le streamer, ben, Atlus a fait en sorte que on ne puisse pas enregistrer le jeu sur PS4. C'est-à-dire qu'il y a certaines séquences qui sont bloquées, et même, si par hasard, tu sais, tu étais un petit malin et que tu utilisais une carte d'acquisition sur ton PC pour streamer la PS4 sur le PC et ensuite retransmettre à Twitch, attention, parce que Atlus veille au grain. Hein, ils ont publié un communiqué sur leur site officiel où ils ont dit tout simplement que il y avait un certain nombre de règles à respecter, du genre vos vidéos elles doivent pas dépasser 90 minutes et puis ça doit pas aller au-delà du 7 juillet. Je rappelle que Persona, c'est un jeu qui se déroule dans un milieu scolaire où tu joues au jour le jour, quoi, tu sais, t'as la date du calendrier. Tu commences en avril et c'est un jeu qui se déroule sur un an, quoi, on va dire. Et Atlus dit également, bah écoutez, si vous respectez pas ça, ben bah, on fera fermer votre chaîne. Voilà.
Non, concrètement, en fait, c'est assez ridicule dans le sens où, enfin, Persona 5 est un jeu assez bon, on le sait depuis un moment, vu qu'il est déjà sorti au Japon. Et franchement, c'est un effort de com qui était pas du tout nécessaire. C'est-à-dire que le jeu est très bon et ils auraient pu juste laisser parler. On est dans une génération où il y a pas mal de personnes qui adorent regarder les streams et les let's play sur YouTube. Il faut faire confiance aux gens. Je veux dire, si la personne s'en fout des spoilers et qu'elle aime regarder son YouTuber
parce que
y jouer,
c'est ça la raison officielle. Hein. On veut pas que les gens soient spoilés.
Ouais, c'est ridicule. C'est-à-dire que la personne, le jeu, elle voit le boss, justement, ça va peut-être même plus lui donner envie, elle va faire purée, cette section-là, elle est géniale, et elle va s'acheter le jeu. Avoir un boss qui t'est spoilé, la personne va pas se dire, ah ouais, c'est génial, mais j'ai un boss qui m'a été spoilé, et je vais pas acheter le jeu. Là, du coup, ça fait une com qui est un peu ridicule. Bon, après, le troll de Devolver est assez marrant.
Ouais, parce que Devolver, on a profité pour faire un petit coup de com' derrière en disant « Oui, alors nous, par contre, nos jeux, vous pouvez les spoiler comme vous voulez, il n'y a aucun problème.
» Ouais, concrètement, ouais, c'est juste un effort de com' qui me paraît pas nécessaire, qui aura pas réellement d'impact, à part un impact négatif au niveau de la sphère gamer, on va dire, très orientée web, mais sinon...
Pour moi, c'est quand même un problème d'un point de vue marketing, quoi. Enfin, c'est une décision débile.
Oui, non, mais clairement.
Visiblement, quand il est le communiqué, dans le communiqué, il y a marqué « Nos maîtres japonais nous ont dit que non, ils voulaient pas qu'on puisse streamer... » Il y a bien marqué « Japanese Masters », hein, donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est le Japon qui a dit non, tu vois. À une époque, si tu veux, où la promotion se fait énormément par Twitch et où énormément d'éditeurs occidentaux utilisent cette méthode d'ailleurs pour promouvoir leurs jeux, je trouve ça un peu couillon. Mais au-delà des décisions débiles de ce genre où s'ils veulent bloquer le stream sur PS4, très bien, tu vois, c'est leur affaire, c'est leur problème. Mais moi, ce qui me pose problème par contre, c'est que cette attitude, tu vois, elle illustre très bien, d'une manière générale, le problème que pose le copyright, en fait. Et la manière dont est utilisé le copyright de manière abusive pour contraindre les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et là, bon, tu vois, on est dans un cadre très gentillé, on veut pas que vous spoiliez notre jeu, mais ça, ce genre de méthode, c'est utilisé aussi quand y a une review qui nous plaît pas, on abuse du copyright, tu vois, pour fermer sa chaîne. Non, mais ça, ce contenu, il nous appartient, ferme ta chaîne et ferme ta gueule, tu vois. Et ça, pour moi, d'un point de vue image, c'est catastrophique. Quoi, ce qu'ils ont fait, là, je veux dire, t'as des fans qui se font chier à brancher une carte d'acquisition sur leur PS4 rien que pour pouvoir streamer le jeu et tu casses les couilles quoi. Enfin bref, très mauvaise décision d'Atlus, c'est bien dommage. Mmh. Mais bon, j'ai envie de dire malheureusement ça c'est typique des Japonais et de Sega d'ailleurs. D'ailleurs, regardez un peu ce qu'ils font par exemple dans l'univers du manga, etc. Écoutez des podcasts où t'as des éditeurs français qui parlent de leur relation avec les Japonais. Des fois, il y a des trucs que tu lèves les yeux au ciel, quoi. Tu dis putain, bosser avec les Japonais, ça doit pas être facile tous les jours, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Surtout que les Japonais, eux, en termes de copyright, ils sont très à cheval là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, tu vois, en Occident, par exemple, l'introduction de, je sais pas moi, par exemple d'un jeu comme Batman et tout ça, ben l'éditeur, il serait content que tu la partages sur les réseaux sociaux, que tu la mettes en avant parce que ça lui ferait de la publicité. Alors que là, les Japonais, non, c'est vraiment le copyright, c'est un truc vraiment, mais tu sens que les mecs, ils bloquent là-dessus. Et même, je me rappelle à l'époque où il y avait des différences entre les musiques, entre l'Europe et l'Occident, parce que le copyright ne pouvait pas venir chez nous. Je me rappelle très bien aussi d'une émission que Greg avait fait sur Gaijin Dash, où il parlait par exemple des comment ça se passait le copyright au Japon. Et en fait, c'est plusieurs grosses entreprises qui détiennent les droits par exemple sur une licence. Et quand ils vont exporter ça à l'Occident, bah en fait c'est un bordel sans nom. C'est pour ça que des fois il y a des restrictions, etc. Mais là, pour Persona 5, enfin, je comprends pas pourquoi Atlus ne veut pas laisser justement les joueurs consommer le jeu et leur faire la publicité, parce que bah c'est un jeu que je trouve qui se prête bien au stream, vu que c'est, tu vois, ça se passe comme dans une année scolaire, donc les gens peuvent suivre au début par exemple un streamer qu'ils aiment bien, ils suivent le premier mois scolaire et puis dire ah ouais, ce jeu il a l'air quand même pas mal, bah je vais me l'acheter, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pour moi la promotion se fait, comme tu l'as dit, par Twitch. On en entend parler parce que c'est un jeu qui a eu des très bonnes critiques, mais c'est pas un jeu où tu vas voir des publicités dans le métro ou ce genre de choses là quoi. Donc voilà, il faudrait laisser les gens que les gens communiquent sur ce jeu-là. En plus, ça, c'est un, ça a l'air d'être un bon jeu, donc,
Mais à mon avis, là, par contre, je plains les employés d'Atlus USA. Parce que je suis persuadé qu'ils doivent se dire que aussi que c'est débile, mais qu'ils peuvent pas y faire grand chose, malheureusement pour eux, quoi.
Et moi, le truc que je trouve le plus hypocrite aussi, tu l'as très bien décrit tout à l'heure, c'est genre les éditeurs qui, par exemple, si, t'as une critique qui est mauvaise sur tel ou tel jeu, ou bien même ça peut être partagé par au cinéma ou avec la musique, bah ils vont te fermer ta chaîne ou bien te mettre un strike parce que entre guillemets ils vont invoquer le copyright. Mais par contre, si tu fais
abus du copyright,
voilà, c'est ça. Et moi je trouve ça dégueulasse, parce que ça va que dans un sens. On devrait quand même pouvoir être protégé là-dessus, quoi.
Voilà. Je vous propose qu'on passe à la suite, messieurs.
Yes.
Et Dwayne, bon. Alors, on va pas s'étendre sur cette news parce que les problèmes de Mass Effect Andromeda, on en a parlé, on a re-reparlé, on a re-reparlé. Mais bon, la semaine dernière, ATH, vous avez parlé d'un futur patch qui allait sortir, n'est-ce pas? Pour corriger certains problèmes, on a le détail de ce que va corriger le premier patch.
Voilà, tout à fait. Donc c'est le patch 1.05. Donc rapidement, donc ça va permettre pas mal de choses, dont les yeux plus réalistes, la possibilité de passer rapidement au niveau des voyages entre les planètes, et surtout ce qui est très important et ce qui moi m'avait choqué, donc une meilleure synchro labiale. Donc après, il y a plein d'autres petits ajouts. Ce qui est important surtout, c'est la note d'intention, le fait que BioWare indique on a vu vos réactions et on essaye d'améliorer les choses. Donc il y a déjà des premières images qui tournent, vous allez voir, avec les yeux un peu plus réalistes, etc. Rien qu'au niveau des yeux plus réalistes et la synchro labiale, ça fait déjà une énorme différence qui peut, pour certaines personnes, améliorer les choses. En tout cas, c'est moi personnellement, je suis un gros fan de Mass Effect. Malheureusement, Andromeda, je ne pourrais pas. J'ai tenté effectivement, mais c'est juste pas possible. Là, j'ai pas encore tenté avec le nouveau patch. C'est moi, j'ai un pote qui l'est. J'ai dit, de toute façon, j'ai vu ce que donnait le jeu. J'ai dit, même par principe, je ne l'achèterai pas. Et bah, j'essaierai de le faire peut-être en fin d'année, lorsqu'ils auront peut-être terminé de corriger, quoi. Et...
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moralité, acheter le jeu dans 6 mois à moins 50% quand il sera débugué. Et d'ailleurs, sans transition, hein, si je parle de jeux à acheter dans 6 mois à moins 50%, c'est pas pour rien, hein, n'est-ce pas? Je voulais bien entendu parler de Dishonored. Parce que Dishonored, il a un peu fait du caca à sa sortie, n'est-ce pas? L'optimisation, c'était une catastrophe. Et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'optimisation, c'est une catastrophe, il s'est fait bâcher sur Steam. Après, je sais pas comment ça s'est passé sur PS4 et compagnie, mais en tout cas sur Steam, ça s'est pas bien passé. Et du coup, ben, bah, il s'est pas vendu. Et la preuve qu'il s'est pas vendu, parce que là, on a appris récemment que, 1, une démo allait arriver, Et vous savez ce que ça veut dire, hein, en général, ces derniers temps, quand une démo arrive, hein, on a vu avec Titanfall 2, notamment récemment, par exemple. Mmh. Et surtout, bah, il a été soldé, là, très récemment, sur Steam, à moins 50%, et je l'ai acheté. Et je tenais, n'est-ce pas, à faire un communiqué officiel. Moi, le tyran, je tiens à remercier tous les bêta-testeurs de Dishonored 2, qui ont payé le jeu à 60 balles et qui l'ont débugué pour moi. C'est génial, merci beaucoup les mecs.
Voilà, voilà.
Non, mais t'avais fait pareil sur Deus Ex Mankind Divided, il me semble, non?
Deus Ex Mankind Divided, là, c'est moi qui ai fait le bêta tester.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que t'avais fait ça sur Deus Ex, t'avais fait le bêta tester. Ouais.
Mais j'ai appris la leçon, en fait. Donc là, voilà, encore une fois, un jeu qui est sorti en novembre, on est au mois d'avril, il est déjà soldé à moins 50%. Merci, les mecs. Voilà.
Ah ouais, clairement.
Bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter, hein, c'est...
Ouais,
c'est
non,
malheureux,
bah oui,
mais
c'est sûr,
c'est toujours le même problème, quoi. C'est un bon jeu qui, parce qu'il a été sorti trop vite, s'est fait bâcher. On espère que ça servira de leçon, comme d'habitude. Allez, on enchaîne et on va parler de Steam Explorers. Alors, vous le savez, on râle souvent sur Steam. Hein. Notamment, il n'y a pas si longtemps, on a râlé sur le fait qu'ils allaient mettre en place un nouveau programme qui s'appelle Steam Direct. Steam Direct, c'est quoi? C'est on laisse tomber Greenlight et on met en place un système où on met une barrière payante et tu vas voir, ça va marcher tout seul bébé. Bon, ils se sont dit quand même, ok, vu les réactions, on fait peut-être les choses mal. Encore que quand tu lis ce que disent les youtubeurs, parce qu'il se trouve qu'ils ont invité des youtubeurs, notamment Total Biscuit et Jim Sterling, qui sont deux youtubeurs qui sont connus pour faire de la curation et qui parlent de petits jeux, mais qui aussi jouent à des jeux totalement bâclés, ce genre de choses. Ils ont quand même dit que bon, ok, on comprend qu'il y a quand même un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système qui s'appelle Steam Explorers. Et qu'est-ce que c'est Steam Explorers? C'est un système, en gros, où on va mettre à disposition régulièrement une liste de jeux à tester. Alors par contre, ces jeux, il faudra les acheter, mais petite subtilité, vous pourrez a priori vous faire rembourser sans restriction. C'est-à-dire que vous le savez, actuellement sur Steam, pour vous faire rembourser, il y a une limite de temps. Si tu joues au-delà de 2 heures, tu peux pas te faire rembourser. Mais aussi, il y a un délai, c'est-à-dire au-delà de 14 jours, tu peux pas te faire rembourser. Là, en gros, il lèverait toutes les restrictions sur le remboursement et vous pourrez tester les jeux, en fait. Voilà. Donc, et l'idée, en gros, c'est que la curation que ne veut pas faire Valve en payant des employés, quoi, tout simplement, ce sont les utilisateurs qui vont la faire. Alors, attention, les jeux de merde sortiront toujours, hein, sur le site, mais l'idée, en gros, c'est que ils seront pas mis en avant, en fait. Et il y a tellement de jeux pourris qui sortent que de toute façon, si t'es pas mis en avant, tu n'existes pas. Donc l'idée, c'est vraiment, on met à disposition une liste de jeux, ceux qui ressortent du lot, ben on les met en avant sur Steam, et les autres, on les laisse couler. Bon, écoutez, c'est mieux que rien, mais je note tout de même que un système où tu devras avoir des salariés que tu payes pour faire ce taf, c'est la magie du web, c'est les utilisateurs qui vont le faire, et en plus, ils payent pour ça.
Non, mais clairement, c'est un système qui est... plutôt intéressant, mais voilà, comme tu le dis, c'est le côté Valve très feignant, quoi. On va pas payer des gens chez nous pour le faire en interne, et donc ce sera la communauté. Après, il y a un côté également communautaire qui peut être assez intéressant, c'est-à-dire que justement, ils ont invité des youtubeurs, ils ont ce côté où bah, il y aura pas mal d'autres petits youtubeurs qui vont avoir un flux constant de jeux à tester, à montrer à leur fanbase, etc. Donc je pense qu'ils ont aussi un côté, il n'y a pas que l'aspect « on est feignant, on va pas le faire nous-mêmes », il y a aussi cet aspect un peu communautaire, web, marketing qui va rentrer en compte dans le système. Enfin, moi, je trouve ça plutôt bien. C'est mieux, en tout cas, c'est mieux que...
C'est toujours mieux que l'ancien système où c'est on met une barrière économique et on prie pour que ça marche. Ouais, c'est,
exactement.
C'est toujours mieux, oui, effectivement. ATH, quelque chose à ajouter?
Je trouve ça bien d'un côté qu'il y a la communauté qui est un peu plus mise en avant avec notamment des porte-parole entre guillemets qui sont les youtubeurs. Mais le fait que Valve se lave un petit peu les mains de ça, ça me fait un petit peu chier aussi. Mais donc, voilà, je sais pas trop où me placer là-dedans. C'est-à-dire enfin, je sais pas après si on pourrait trouver un système qui serait un peu plus avantageux pour
moi, fondamentalement, ce qui me pose un gros problème, c'est que le fait que les gens doivent payer pour faire de la curation. Quand même, ils font un travail pour Valve et ils doivent payer pour, en plus. C'est savoureux, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait un système où, à la limite, tu peux tester le jeu, mais au bout d'un moment, on le retire de ta bibliothèque, tu vois, par exemple.
Ou bien même que Valve décide de faire une sélection dans toute sa communauté qu'il a sur Steam. Et du coup, en fait, ça serait des utilisateurs qui, entre guillemets, feraient des tests pour Steam pour le jeu, Et en échange, ils pourraient avoir des points sur leur compte Steam pour acheter le jeu qu'ils souhaiteraient, ou un truc, voilà, un truc du style, tu vois. Enfin, je pense que Steam pourrait très bien mettre en place un truc comme ça, et du coup, la personne ne serait pas obligée de payer elle-même de sa poche pour pouvoir faire une review du titre, quoi, en fait.
C'est ça.
Ouais, clairement.
Bon, on va maintenant parler de ces grands comics de chez Gearbox. Enfin, comics, je devrais plutôt les appeler les escrocs de chez Gearbox. Hein. Vous savez l'amour que j'ai pour Randy Pitchford et tout ce qu'ils ont fait avec Colonial Marines, tout ça. Hein. On va pas remuer les vieilles histoires. Hein. Et il se trouve que les escrocs de chez Gearbox, donc, ont rencontré d'autres escrocs récemment, qui sont ceux de G2A, et qui se sont dit, tiens, ça serait bien qu'on travaille ensemble.
Oh putain.
Et donc ils se sont dit, bon écoutez les mecs, alors en gros on va faire un partenariat, on va proposer des éditions collector chez vous, tu vois, on va distribuer ça directement chez vous. Ils allaient vendre une édition collector à 100 balles et une autre à 250 balles, voilà.
Ouais, c'est ça.
Jusque là tout allait bien, tu vois, je veux dire, ils étaient faits pour s'entendre, hein, c'était le mariage parfait. Et malheureusement, tu sais, il y a des gros relous du net, comme encore une fois Total Biscuit, on n'arrête pas de parler, c'est une mission Total Biscuit aujourd'hui.
C'est ça.
Il y a Total Biscuit qui a posté un tweet qui a dit, en fait, Gearbox, je vais arrêter de couvrir vos jeux, je crois, parce que vous travaillez avec des escrocs comme G2A, ça va pas être possible. Et bon, quand t'as un gros YouTuber comme Total Biscuit qui vient te mettre un coup de pression comme ça, tu réfléchis parce que, en plus, derrière, il y a un risque d'emballement. Et si les youtubeurs te font plus de la pub gratuite, ça commence à poser un problème pour la promo de tes jeux, quoi, si tu veux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Apparemment, ils ont contacté Total Biscuit. Ils ont fait un communiqué derrière en disant « Ah bah non, on n'était pas au courant, hein. »
Non, mais putain, mais ils prennent vraiment les gens pour des coups.
Ils viennent de découvrir que G2A, bah écoutez, il faisait des choses sales, etc. Fait, oh non, non, mais on n'était pas au courant, hein. Et d'ailleurs, pour prouver notre bonne foi, donc, on lance un ultimatum à G2A. Ils ont posé toute une série de conditions.
C'est ça.
Alors moi, celle que je trouve la plus savoureuse quand même, ça s'appelle G2A Shield.
Ouais, c'est la garantie anti-fraude, quoi.
Voilà, il faut que tu payes pour avoir une garantie anti-fraude. Quand je bossais dans l'e-commerce, tu vois, j'avais des gens qui étaient payés comme collègues qui, dont le métier à longueur de journée, c'était de vérifier que les mecs avec qui on bossait, c'était pas des escrocs. Mm. C'est pas un truc en option, tu dois le faire normalement. Donc ils leur ont dit, sur 30 jours, vous devez régler ça. Faut que vous mettiez sous 90 jours à disposition des éditeurs le fait qu'ils puissent contrôler si les clés sont frauduleuses ou non. Ah bon, c'était pas un cul de base. Et enfin, tu vois, plein de trucs... Où tu dis, mais vous étiez pas au courant, Gearbox? Vous foutez notre gueule? Non, mais parce que là, très clairement, bon, on peut saluer, on va dire, le fait que ils échangeaient d'avis, tout ça, ils soient ravisés, mais t'as envie de dire, mais vous étiez pas au courant, vous... Sérieusement?
Mais non, on salue que dalle, c'est du foutage de gueule complet, cette histoire. Parce que Gearbox, en fait, c'est des gros arnaqueurs, c'est des gros escrocs. Après, le truc, c'est qu'ils ont la chance... Ils ont eu de la chatte avec Borderlands, qui est un putain de bon jeu. Et c'est-à-dire que même des gens comme moi, qui effectivement les considèrent comme des escrocs, bah voilà, Borderlands 2, j'ai surkiffé, j'ai passé 150 heures, j'ai eu une petite faiblesse. Et là, mais c'est abusé. Il y a Total Biscuit qui fait son communiqué, et ils arrivent, ils te disent « Oh, on savait pas, oh, désolé, mais il faut arrêter.
Bah, » Surtout quand tu vois le nombre de développeurs qui se sont plaints, les conférences qu'il y a eu sur le sujet, parce que, genre, à la GDC, tu vois, c'est un petit truc pour les développeurs. Hein. C'est le truc où tu vas chaque année, qui est important, quoi.
Oui, parce que, par exemple, pour citer rapidement, l'année dernière, alors c'était vers juin, il y a eu effectivement... le directeur de Tiny Build Games, donc qui est un petit développeur indé, c'est ceux qui font Speedrunners, par exemple.
Ouais, qui ont fait plusieurs charges
exactement. Donc ils avaient voilà. Ouvert effectivement un site où ils vendaient des clés pour différents jeux. Et ensuite, donc ils ont eu une masse de rejets par rapport à des cartes bancaires frauduleuses. Et ça leur a fait perdre au moins dans les 200 à 250 000 dollars. Et toutes les clés se sont retrouvées comme par hasard chez G2A quelques jours après. G2A a sorti un communiqué indiquant « Oui, donc si vous avez des clés frauduleuses, il faudra nous donner le numéro de chaque clé pour qu'on puisse... nanana. »
Non mais en gros, G2A utilise ça comme prétexte pour forcer les développeurs à bosser avec eux en fait. C'est ça le gros problème.
Et ce qui me fait rire moi en fait dedans, c'est que comme tu as dit, c'est deux escrocs qui se rencontrent. Et en plus de ça, tu sais, Dwayne avait cité Borderlands. Mais il faut quand même rappeler que Borderlands 2 et 1 ont été financés avec l'argent de Sega, en fait, qui a été détourné de Alien Colonial Marine. Et en fait, ils avaient tout injecté dans Borderlands, quoi. Ça n'enlève rien d'égalité du jeu, qui est un jeu absolument génial, hein. Mais quand tu sais que derrière ça a été fait par des escrocs, tu vois, tu te dis quand même c'est un petit peu dommage.
En tout cas, merci à Gearbox de toujours autant nous faire rire, ne changez pas les mecs, hein. D'ailleurs, bon, allez, on va passer à une autre news de la semaine qui personnellement m'a bien fait rire, mais écoutez, je vais vous poser la question, hein. Alors, il y a Microsoft qui a dévoilé la Scorpio. Ce que je trouve bien, c'est que ils nous ont pas fait chier avec une conférence. En gros, ils sont allés voir Eurogamer, qui est quand même connu, tu vois, pour tout ce qui est test de matos, console, etc. Notamment avec...
Digital Foundry.
Digital Foundry, voilà. Et ils leur ont dévoilé en exclusivité les specs de la Xbox One Scorpio. Bon, alors, 6 teraflops, 12 gigas de RAM, la 4K, tu la sens, ma grosse 4K, voilà. Alors, messieurs, je vais vous poser une question existentielle. Qui s'en fout?
Je ne m'en fous pas. Je suis. Alors là, pour moi, la com est graduelle et je la trouve plutôt bonne pour l'instant. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte et c'est le facteur le plus important dans l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire les jeux vidéo. Enfin, je veux dire tout simplement qu'on attend de voir les jeux. Après, juste pour rapidement. Citer les petits points positifs. Ils ont promis de la 4K native à 60 FPS, ce qui a l'air d'être une possibilité. On a également un système où ils vont pouvoir, enfin, ils ont intégré a priori, donc après c'est toujours des choses à vérifier lorsqu'on aura la console, mais ils ont intégré un système où ça va pouvoir directement upscaler les différents jeux, donc pas comme le mode boost de la PS4 Pro, mais directement tes jeux soit à 360 ou One, tout simplement, donc ceux qui sont à 900p, à 1080p, et proposer les différentes options pour tous les jeux, ce qui n'est pas non plus le cas au niveau de la PS4 Pro. Donc ça, c'est les choses positives. Après, je vous laisse déjà parler des jeux, vu que je pense que c'est plus ça qui va vous intéresser.
Et ah non, moi, mais moi, de toute façon, pour moi, depuis le départ, je le dis, hein, moi, la PS4 Pro et la Xbox One Scorpio, pour moi, c'est un non-sujet, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai pas de télé 4K, donc à partir de là... Alors, c'est vrai que avoir des jeux à 60 FPS, ça peut être intéressant, mais là, on est dans l'ordre du détail, quoi. C'est pas ça qui détermine mon achat d'une console, quoi, si tu veux. Si je veux du 60 FPS, je joue sur PC, très concrètement. Je pose une question à Microsoft, où sont vos jeux? Je me doute qu'il y a des choses qui vont arriver à l'E3. Enfin, je me doute. J'espère.
Oui, on espère tout.
C'est sport. Un peu ça le problème, quoi, parce que je pense qu'on n'a aucun bénéfice à tirer du fait que Sony soit tout seul sur le marché. Bon, après, il y a Nintendo qui se réveille un peu. Nintendo, c'est toujours la même chose. Et ils sont un peu dans leur bulle. T'as l'impression qu'il y a le monde de Nintendo et le reste, tu vois. Donc voilà. Sony est un peu tout seul dans son coin et on n'a aucun intérêt à ce qu'il soit tout seul. Mais le problème, c'est que ces derniers temps, j'ai l'impression que Microsoft ne fait pas grand-chose pour les contrecarrer, et j'espère, je croise les doigts, pour qu'ils aient mis le paquet pour avoir des studios first party qui développent des trucs. Parce que là, pour le moment, c'est juste pas possible. En dehors des trucs qui sont déjà annoncés depuis what, 1000 ans, y a rien, tu vois. Et quand tu vois Sony en face, qui arrive à avoir des excuses japonaises déjà, et qui en plus finance ses studios à lui, il y a un problème, quoi. Il y a clairement un gros manque chez Microsoft, et autant la Scorpio, je m'en fous, ce que j'espère par contre, c'est que ce mouvement entamé avec la Scorpio, là, ça annonce derrière des nouveautés en termes de jeu, quoi, tout simplement.
Ouais, parce que... Enfin, il faut qu'il y ait un match. C'est bien que Microsoft, ils arrivent avec une nouvelle console, la Scorpio, qui a l'air d'être un monstre de puissance et tout ça, qui propose du 4K, du 60 images par seconde, et enfin, oui, c'est très cool, hein, sur le papier, mais pour jouer à quoi, concrètement? Voilà, à part Forza Motorsport, pour l'instant, ou Sea of Thieves, ce genre de choses-là, il n'y a pas de grands jeux Scorpio, ou bien même Xbox, tout simplement, qui méritent l'achat. C'est, déjà, le problème, c'est que, sur la console de Microsoft, il y a des jeux qui sortent sur PC, et sur Xbox One. Et les jeux sur PC, bah, en général, ils tournent à 1080p, 60 images par seconde, et plus si ta conversion est puissante, etc.
Ouais, on va dire qu'on va relativiser, vu toutes les histoires de portage mal foutu sur PC qu'on a eu ces derniers temps.
Voilà, mais après, on va dire, tu vois, C'est-à-dire que ceux qui veulent de la puissance peuvent jouer sur PC avec voilà les jeux qui tournent en meilleure résolution, ce genre de choses-là. Et du coup, l'Xbox One Scorpio, ça les intéresse pas parce qu'ils ont déjà un PC et que les exclus qui pourraient potentiellement les intéresser, par exemple Gears of War, maintenant sortent sur PC.
Bah, disons que pour moi, la course à la puissance, si tu veux, ça a toujours été le sujet plus ou moins du PC, quoi. Enfin, la mentalité du joueur PC, quoi, si tu veux. Et pour moi, un joueur console, enfin, c'est pas forcément ce qu'il attend d'une console, quoi, en fait. C'est toujours appréciable d'avoir de la puissance en plus, oui. Je dis pas le contraire. Mais ce qui fait qu'un joueur console joue sur console, pour moi, c'est surtout une convivialité, tu vois. C'est une interface, c'est les services que propose le truc, ne pas se faire chier avec Steam, tu vois. Enfin, c'est et je pense que de toute façon, t'as une base de joueurs console, si tu veux, qui est pas forcément intéressé par la course à la puissance, mais qui par contre regarde les jeux auxquels il va jouer, quoi, tout simplement.
Enfin,
quoi.
Moi, pour prendre mon exemple, hein, qui n'est pas du tout représentatif, pourquoi je vais acheter une machine au lieu d'une autre? Je regarde les annonces qui ont été faites concernant le catalogue exclusif, parce que je parle pas des jeux Ubisoft, Electronic Arts qui sortent sur toutes les plateformes. Ça, je sais que quelle que soit la machine, je pourrais y jouer. Mais en tout cas, les jeux, bon, il y a 6 exclus ici, là, il y en a 8. Mais les 6 ici m'intéressent plus que les 8, par exemple, qu'il y a à côté. Je vais privilégier plutôt telle ou telle console. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que Microsoft, en fait, arrive à l'E3 avec plein de petites exclus, entre guillemets, hein. De petits exclus qui sortent, ou bien des exclus qu'on connaît déjà, par exemple, que ça soit Halo 6, Gears of War 7, enfin, ce genre de choses-là. Mais que là, qu'ils arrivent vraiment avec une exclu Scorpio, et pas PC, Xbox One, qui tabasse tellement, que quand tu vois la vidéo, t'as envie d'y jouer, par exemple, une exclu qui soit aussi puissante en termes d'impact que Zelda Breath of the Wild, tu pourrais jouer que sur Scorpio, que Microsoft a dit, non. La plupart des jeux sortent sur PC et sur Xbox One, mais celle-là sort que sur ce support-là. Et du coup, ouais, là, peut-être que la Scorpio, elle pourrait être intéressante, si les autres exclusivités aussi qui sortent par derrière sont intéressantes aussi. Parce que je veux dire, en termes de catalogue purement exclusif, ce début d'année sur PlayStation 4, Sony c'était une boucherie quoi, ils ont sorti quasiment que des exclusivités.
Non mais pour me faire très rapidement l'avocat du loser, en gros Microsoft et Xbox étaient sous la tutelle de deux mecs. Donc Microsoft c'était Steve Ballmer et Xbox, donc comment il s'appelait déjà?
Don Matrick,
ouais. Voilà.
Comment l'oublier?
Don Matrick.
Le mec qui dit, si vous n'êtes pas content, achetez une 360.
C'est ça, exactement. Qu'on pourrait donc stipuler comme le package marketeur old school relou. Et en fait, là, les deux mecs qui sont arrivés, c'est-à-dire Phil Spencer et Satya Nadella à la tête de Microsoft plus globalement, ce sont des mecs beaucoup plus posés, qui sont beaucoup plus rationnels et qui ont également la main dans le cambouis, donc qui sont beaucoup plus passionnés par ce qu'ils font et qui ont un background un peu plus, ils ont la main dans le cambouis, ils savent de quoi ils parlent. Et ce changement, on est dans une boîte comme Microsoft et une section comme Xbox, où les changements sont assez longs à s'opérer. Donc on avait un ancien management qui était assez pas extrêmement compétent, et on devrait, je pense, par rapport à Xbox plus spécifiquement, voir justement les changements arriver maintenant. Même si en tant que moi qui suis assez fan de la marque Xbox, je reste assez dubitatif par rapport au fait, on a eu l'annulation déjà de Scalebound, on a un line-up qui est on n'a pas de line-up tout simplement. Et donc, effectivement, j'attends de voir ce que ça va donner à l'E3 avec impatience et avec un peu d'appréhension.
Ouais, moi aussi, j'espère vraiment que Microsoft, à l'E3, ils vont bourriner. C'est ça que moi, je veux voir. C'est-à-dire, je veux voir un Microsoft comme au temps de la Xbox 360 où il y avait un match.
Qui répond à Sony,
voilà,
quoi, tu vois.
C'est-à-dire que Phil Spencer, pour moi, c'est peut-être le meilleur communicant qu'on a en ce moment en parlant de Sony, Microsoft et Nintendo. Parce que c'est un mec qui prend vraiment le temps de répondre aux gens sur les réseaux sociaux, qui est pas langue de bois et tout ça. Mais c'est juste, le problème, c'est juste qu'il peut pas créer des jeux qui sortir de nulle part. Et c'est juste ça, moi, le reproche.
Et c'est le gros problème qu'il y a avec Microsoft en ce moment, c'est quand tu vois que les seuls exclus qu'ils avaient, ils commencent à les annuler, genre, notamment, Scalebound,
ouais.
C'est chaud quoi, et on se dit, on est en train de prier pour que ils aient des studios cachés, tu vois, qu'il y ait des trucs qui vont sortir de nulle part, tu vois, on en est à ce stade là quoi.
Voilà, qui viennent avec vraiment une nouvelle licence qui envoie du pâté, et c'est ça qu'on leur demande, c'est-à-dire on veut vraiment avoir un match gagnant entre les consoles. Plus les concurrents sont forts, plus les joueurs y gagnent en fait.
C'est ça. Bon, je note au passage que Square Enix, ils ont dit ouais non mais OSEF. Non mais en vrai c'est ce qu'ils ont dit quoi. Parce qu'on leur a posé les questions de qu'est-ce qu'ils voulaient prioriser. Bon là c'est moi qui en rajoute un peu, hein, c'est vrai, hein, mais en gros ils ont dit que pour eux la priorité c'était la Switch. Ça par contre je trouve que c'est une info intéressante, parce que je me demande si ça va pas être une tendance de fond chez les Japonais. Parce que je rappelle quand même que les Japonais, bon, la Switch, à mon avis, c'est un truc très important pour eux, parce que, bon, les Japonais, tu sais, ils vivent pas dans des grands apparts, etc., et le marché des portables a une très grosse importance chez eux. Donc, je me dis que si ça se trouve, Nintendo a un très très gros coup à jouer quand je vois la réaction de Square Enix, avec des exclusivités japonaises qui vont arriver naturellement sans qu'ils aient même à sortir le chéquier. Il y a un truc à jouer, là.
Très clairement.
Bon, allez, c'est terminé pour l'actualité cette semaine, mais on va passer au jeu du moment. Et pitié, ATH, je suis vite. Il faut que je parte. Et le jeu du moment, c'est Horizon Zero Dawn. There's a threat to us all. Men in masks, raising up ancient machines. And I've seen their leader. From the depths, I will raise an army. A storm of shadows to take back what's ours. What's it doing to them? Taking control. You can see the corruption coming off them like smoke. You've come a long way since the Citadel, Aloy. Who are you? An interested party. Braves, to Aloy's side, now!
So it comes to this. What is it? The end. Or how it begins, anyway.
Alors, pour commencer, ATH, on va faire simple. Mon impression, si tu veux, en voyant les différentes vidéos de gameplay d'Horizon, etc., c'est que, dans le fond, c'est un open world très très classique, c'est-à-dire que dans sa structure, c'est un peu le parc à thème, quoi. C'est-à-dire que t'as ta mini-map où tu vois un peu tout ce qu'il y a à faire, etc. Il y a des tours à débloquer, même si on en reparlera après, ça a l'air un peu plus original que les tours à la Ubisoft. Mais par contre, sa grosse force, j'ai envie de dire, c'est son système de combat. Alors, est-ce que tu dirais que ça peut se résumer à ça, ou...
Ouais, je pense que t'as bien résumé le truc, c'est-à-dire qu'en fait, dans Horizon, le truc qui ressort le plus, mis à part son univers, c'est le fait que tu affrontes des créatures mécaniques, et c'est là où tu prends le plus de plaisir, en fait, à jouer, tout simplement, parce que les combats contre ces machines, que tu découvres au fur et à mesure du jeu, ça se complexifie, et tu peux utiliser certaines capacités qui vont faire plus ou moins de dégâts, en fait, contre une machine. Et moi, ce que j'ai préféré dans Horizon, c'est vraiment ça, c'est-à-dire, par exemple, mon arme préférée, c'est le lance-corde qui permet d'immobiliser un ennemi au sol et lui permettre de continuer à l'attaquer et lui mettre un coup critique. Tu peux l'attacher complètement par terre, le ligoter, et toi, tu viens et puis tu prépares ta stratégie, soit tu examines avec un système qui s'appelle le focus, donc qui est entre guillemets un scanner du futur qui te permet de voir les points faibles de la bestiole. Il y a des créatures qui sont sensibles à l'électricité, des créatures qui sont sensibles au feu, ou bien telle partie est sensible au feu, mais telle partie est insensible au feu.
C'est-à-dire qu'il y a des points faibles, et des fois, il va falloir bosser un peu pour les mettre en évidence, qu'on va dire.
C'est ça. Et après, quand tu connais bien les machines et tout ça, t'auras plus besoin, limite, de les scanner. Mais au début, en tout cas, la première fois que tu rencontres une machine, t'es un peu impressionné, tu te dis comment je vais gérer le truc. Et c'est ça que moi, je trouve vachement cool dans le jeu. Le fait que, aussi, tu peux préparer un combat en amont, en mettant des pièges, tout genre de choses qui permet en fait de te faciliter la tâche. Surtout si tu sais que par exemple une créature est sensible par exemple à l'élément de glace, bah tu prépares des pièges de glace, hop, tu les poses sur ta route, tu appelles la machine, tu la siffles pour qu'elle vienne te voir. Là, elle commence à arriver et du coup ça lui explose à la gueule. Et là, la machine te repère et le combat commence. Du coup, t'as quand même eu un petit avantage. L'autre aspect cool, c'est l'aspect en fait brutal et l'aspect l'impact des combats et des chocs. Une machine, elle est recouverte de métal et toi, tu peux commencer si tu veux à la déglinguer avec des armes spécifiques, et donc c'est-à-dire sur le champ de bataille, ton éclat d'armure va tomber par terre et ça va rester au sol. Une fois que la machine va s'énerver, va commencer à faire des attaques de jet ou bien mettre des grands coups de queue qui va balayer la zone et tout ça, tu vas voir tous les morceaux de son armure et tout ça qui vont s'envoler dans le ciel ou bien ils vont être déplacés plus loin. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment sympa dans le jeu, c'est-à-dire que les combats, il faut pas prendre à la légère, surtout au début quoi, et tu rencontres vraiment des créatures de plus en plus puissantes au fur et à mesure du jeu quoi.
Et en plus, il y a une notion d'exploitation de l'environnement, tout ça qui est intéressante, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Le seul bémol que j'aurais par rapport au combat, en fait, c'est contre les humains. Il vaut mieux les jouer à distance, c'est-à-dire avec l'arc, comme si tu combattais avec une bête, parce que, en fait, le personnage principal qui est Aloy dispose d'une lance, mais cette lance-là, elle est pas très pratique pour avoir du combat au corps à corps, parce que tu peux pas loquer les ennemis, tu peux pas faire de parade ou ce genre de choses là. Tu peux vraiment juste attaquer et mettre un coup comme ça, mais tu vois bien que le gameplay a pas été pensé pour le combat au corps à corps.
Pour gérer les adversaires humanoïdes, tout simplement.
Voilà. Et puis, même, des fois, tu sais, parce que dans le jeu, il y a un peu la notion d'infiltration, discrétion pour libérer les camps, comme dans les Far Cry. Sauf que dans Horizon, l'IA est assez bête et assez facile à manipuler, quoi. Tu peux tuer un mec, ils vont dire, ah, attends, il y a Paul qui est mort, il va aller voir. Il va chercher comme ça un petit peu dans la zone, et après il va dire bon bah en fait je sais pas, ça doit être un pigeon qui l'a tué, puis il retourne à sa vie normale. Du coup je pense que s'il y a une suite, il devrait un petit peu améliorer le côté intelligence artificielle des humanoïdes et aussi les combats corps à corps. Voilà, c'est ce que j'ai comme reproche par rapport au combat, quoi.
À part ça, bon, on l'a dit, le jeu a une structure très classique. Globalement, bon, je veux dire, il fait bien le taf, hein, il y a rien à redire spécialement. Mais par contre, il y a un aspect que moi tu m'avais mis en avant quand j'avais discuté avec toi du jeu, c'était les tours à la Ubisoft, on va dire. Là, elles sont un peu différentes, je crois, et enfin, t'avais vraiment apprécié l'expérience, il me semble.
Ouais, parce qu'en fait, les tours qu'on peut débloquer dans le jeu, qui sont en fait des girafes robotisées, géantes, elles ont un chemin prédéfini, et toi, il faut trouver le chemin pour escalader jusqu'au sommet de sa tête. Ça change un petit peu de la traditionnelle tour que tu dois escalader comme ça dans les jeux Ubisoft.
En mode pilote automatique.
C'est ça. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a le panorama qui est mis en évidence à ce moment-là. Le truc continue à se déplacer. Tu commences à escalader. Comme ça, tu te sens vraiment petit quand tu montes.
Shadow of the Colossus.
et l'autre chose qui est cool aussi, c'est qu'il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, dans tout le jeu, j'ai dû en faire 5. C'est pas genre le truc où dans un Far Cry ils t'en mettent une vingtaine, une quarantaine.
Je précise que tu as platiné le jeu, hein, pour ceux qui se poseraient la question.
Ouais, mais je précise à ma décharge que c'était très simple. Il suffit juste de finir le jeu et de faire toutes les quêtes et ce genre de choses là pour platiner le jeu. Donc c'est pas genre Bloodborne où j'ai galéré un petit peu, tu vois. Mais par contre, je voulais dire aussi, c'est un jeu, je pense, qui m'a mis la plus grosse claque technique en termes de visuel, notamment quand tu escalades en fait des montagnes.
C'est difficile de passer à côté, effectivement.
Voilà, surtout avec des plans. Ils ont été faits genre juste pour ça, c'est-à-dire c'est des effets waouh, c'est juste pour te dire putain c'est vachement beau, mais avec les effets météorologiques comme la neige qui rajoute une couche quand t'es au sommet d'une montagne. Et il y a aussi un peu dans le jeu un aspect The Last of Us, ou dans le sens où tu sens vraiment que tu vois t'as une chute de la civilisation, et donc des fois t'as certains bâtiments où t'as des la végétation qui a repris ses droits en fait, où tu sens vraiment que voilà c'est vraiment un truc délaissé et tout ça.
Il y a une espèce de narration par l'environnement, quoi, en fait.
Ouais, et donc tu découvres des ruines et tout, et il y a un gros travail en fait qui a été fait sur les artistes là-dessus. C'est vraiment, j'ai pris un grand plaisir à découvrir le jeu, quoi.
Mais du coup, alors ok, on a compris, il y a une super ambiance, notamment une direction artistique qui est servie par une technique qui est au top, surtout qu'apparemment, moi, de ce que j'ai vu, le jeu il tourne au poil, hein, même sur PS4 normal. Bon, on a bien compris ce que t'aimais, en particulier les combats, mais est-ce qu'il y a des trucs, toi, qui te font grincer des dents?
Ouais, c'est-à-dire que il y a des trucs qui sont un petit peu moins bien gérés que d'autres. Par exemple, la narration, il y a beaucoup de choses à lire et beaucoup d'audiologues, et moi je trouve que c'est la solution de facilité en fait dans le jeu vidéo, où t'as un super background et que tu ne sais pas comment l'utiliser. Donc à la place de mettre des personnages intéressants qui pourraient te le raconter, bah tu fous des audiologues et des choses à lire. Quand tu parles avec des PNJ, tu vois vraiment qu'il y a le côté un peu The Elder Scrolls, où t'as deux personnages qui se parlent face à face, et au final c'est pas très dynamique. Par exemple, quand tu as joué à un jeu comme The Witcher 3, où par exemple lors d'une conversation Geralt s'assoit, marche,
bouge. Ouais, fait des mimiques, enfin c'est voilà quoi, c'est vivant.
Voilà, alors que là du coup t'es vraiment planté face à face. Ça c'est un petit peu dommage à ce côté-là. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote assez marrante, c'est le fait que au tout début du jeu, une des premières quêtes secondaires qui m'est apparue, il y a un personnage qui me demande de l'aide, donc je vais l'aider. Il y a sa fille qui vient, qui commence à le soigner, et du coup moi je me barre et je reviens peut-être 20 heures après, 30 heures après. Cette personne-là était toujours allongée au sol avec sa fille, comme si en fait ça faisait 10 minutes que je les avais laissées. Et en fait, le moment où ces personnages-là ont quitté leur emplacement, c'est au bout d'un moment dans le scénario, mais vers la fin de l'histoire.
Ah, c'est chaud, ça.
Du coup, quand t'allais leur parler, il disait oui, merci de m'avoir aidé, tout ça, mais le mec, depuis tout le début du jeu, il avait pas bougé, quoi.
Oh non, mais je suis bien, là. Y a pas de problème. Hein. On est cool, là.
Après, tu vois, ça va, parce que c'est que un seul personnage qui a fait ça, mais ça m'a fait un petit peu sourire à ce moment-là. Après, l'autre truc qui gâche un peu l'expérience pour moi du jeu, c'est... Tu as un peu la sensation, quand tu regardes ta map, d'avoir la checklist obligatoire.
Ouais, t'as Disneyland, quoi, t'as la liste des activités.
Voilà,
quoi.
Ça, t'as la liste des activités. Mais par contre, j'ai trouvé assez cool C'est que par exemple, tu vois, les quêtes campement de bandits ou bien escalader les tours, t'en as une poignée dans tout le jeu.
T'as pas l'impression d'un remplissage artificiel.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Du coup, j'ai, enfin, si t'as l'impression d'un petit remplissage, mais ça va, tu vois, ils ont pas abusé là-dessus.
C'est moins marqué que chez
voilà,
d'autres.
C'est comme pour les tours, les campements de bandits, par exemple, il y en a que 5 à faire. Au bout de la 5e fois, tu dis bon, bah, ça va, j'ai compris, c'était cool. Et là, le jeu te dit bon, bah, c'est fini, tu vois, t'as terminé, t'as terminé.
Voilà.
On va pas.
Merci.
Parce que tu vois, la carte, elle est vraiment grande. Ils en ont pas abusé d'en mettre 25 partout. Et sinon, à part ça, en termes de défauts, qu'est-ce que je pourrais trouver au défaut? Peut-être l'histoire aussi, qui promettait quelque chose d'assez intéressant au début, mais qui finalement, vers la fin, se retrouve dans des grands classiques, on va dire, du cinéma. C'est un truc assez prévisible, et surtout les personnages, en fait, finalement, j'ai trouvé que 2 ou 3 personnages assez intéressants. Déjà, donc, Aloy, qui est une femme rousse, c'est une battante, elle remet pas mal de choses, par exemple, tout ce qui est croyance et tout ça en cause, elle est bien développée. Après, il y a un autre personnage que j'ai bien aimé. Mais après, par exemple, tu vois, il y a un méchant, il fait vraiment méchant, genre, je suis méchant et ferme ta gueule.
Je suis le méchant, je vais tuer la gentille.
Non, mais limite, tu vois, ça serait même pas une parodie dit comme ça. C'est, voilà, il y a le méchant en termes d'humain, il est un peu comme ça, quoi. Genre, c'est la brute, sanguinaire et qui a pas vraiment de motivation, mis à part tuer tout le monde. Mais sinon, après, je me dis que c'est une première pour la licence. C'est le premier jeu en monde ouvert pour Guerrilla. Et devenir d'un FPS comme Killzone à un jeu en monde ouvert comme Horizon, ça doit pas être facile. Et je trouve qu'ils ont bien fait la transition.
Et surtout aussi bien le gérer quand même, parce que c'est ça le truc, quoi. Ils sont pas foirés. Le jeu est bien fini en plus de ce que tu m'avais dit. Donc voilà.
Ouais, en fait, parce que moi j'ai pas acheté le jeu, tu sais, à la sortie, parce que maintenant je suis un peu comme toi, j'attends les jeux optimisés et tout ça. Et là j'ai vu que le jeu, bah apparemment, il y avait pas trop de soucis à se faire. Et du coup, bah, j'ai téléchargé le jeu. Et il y avait une mise à jour en fait. Et la mise à jour, c'était 1.12. Je me suis dit, oh merde, je vais devoir me taper encore 5 gigas de téléchargement, je vais pas pouvoir y jouer maintenant.
Vous faites chier avec le patch.
Voilà. Et en fait, non, c'était, la mise à jour était de 256 MO, en fait. Et du coup, 2 minutes après avoir mis le jeu, j'ai pu y jouer, en fait. Et ça, j'ai trouvé vachement bien que bah, Guerrilla, en fait, ils ont sorti le jeu dans une optimisation convenable, en fait, sur la PS4. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le jeu, parce que j'ai vu qu'apparemment, il était bien fini. Après, un autre petit défaut aussi, ça serait peut-être sur l'aspect RPG qui est un peu light.
Ouais, mais est-ce qu'il a vraiment prétention à être un RPG?
Ouais, quand même un peu, parce qu'il y a tout ce qui est, tu sais... classe, compétences que tu débloques, il y a un système de niveau aussi. Il a des codes du RPG, par exemple aussi en termes de narration, t'as des choix qui sont un peu en fait, comme je dirais un peu comme dans Mass Effect, c'est-à-dire des choix qui vont pas te guider.
Bon, neutre.
Ouais, en fait là c'est plus un, enfin pas comme Mass Effect, je dirais plus comme un Telltale Walking Dead, c'est-à-dire qu'ils vont définir la personnalité du personnage, c'est-à-dire en fait t'as 3 tons entre guillemets, genre brutal, logique et l'autre sympathique quoi entre guillemets. Donc tu peux jongler entre ces 3 choses-là, mais ça va pas finalement changer le déroulement du jeu.
On te mettrait un seul choix, ça changerait pas grand chose.
Ouais,
au final,
en fait, c'est
quoi.
Juste pour entre guillemets définir ton personnage comment il est quoi. Mais par contre, j'ai juste vu un choix au bout d'un moment où j'ai eu un échec dans une mission, c'est que entre guillemets, il y avait eu des mecs qui m'avaient volé un bijou, je sais pas quoi. Et donc du coup, je suis parti le récupérer et j'avais le choix entre guillemets entre les tuer et pas les tuer. Moi, je les ai tués. Et du coup, j'ai vu que après quand j'ai parti regarder mon champ de requête, j'ai vu que je pouvais négocier avec eux, mais bon, enfin moi, si tu me laisses les tuer, je les tue. Hein. À part ça, ouais, il y a pas vraiment de choix en fait. C'est vraiment saupoudré de RPG quoi.
Comme le dernier Fallout quoi.
C'est ça,
on
voilà.
On te fait faire des choix qui ne servent à rien. Voilà. Que je voulais demander à Dwayne quand même son impression du coup, parce que en fait, je voulais l'impression du gars qui a fini Zelda et qui repasse à un open world old school, on va dire.
Ouais, c'est. Bah après déjà en fait on avait déjà cette impression que le open world qu'on jouait était déjà old school, c'est-à-dire qu'on se plaint déjà tout le temps de toutes les quêtes etc. Mais après Breath of the Wild c'est beaucoup plus dur quoi, c'est-à-dire que j'avais commencé un peu Horizon avant, donc après j'ai arrêté parce que Zelda est arrivé et là je reprends et waouh c'est un peu compliqué, même si pour l'instant, je trouve l'aventure sympa. Comme ATH l'a dit, l'action est vraiment bien, bien maîtrisée. Les combats assez impactants.
Je tenais quand même à souligner que les open world avec un bon système de combat, j'en connais pas beaucoup. Hein. Et le truc, c'est que moi, ce qui m'attire en fait dans ce que raconte ATH, c'est que ce dont il parle sur le système de combat, c'est un peu ce que j'aurais aimé avoir sur The Witcher, par exemple.
C'est un peu le meilleur système de combat en termes de chasse aux monstres que j'ai pu voir dans un jeu comme ça. Par rapport à un Monster Hunter, je trouve ça beaucoup plus fluide et plus nerveux en termes de... Après, c'est pas la même chose, tu vois, parce que Monster Hunter c'est vraiment un jeu de chasse pur et dur, alors que là c'est pas un jeu de chasse, c'est un jeu d'action RPG, quoi.
Oui, oui.
Et en plus, ce qui est marrant avec ce système dont on parle, avec toutes les quêtes qui pop, etc., c'est que c'est un problème qui intervient non seulement pour nous qui jouons tout le temps, mais également quand je discute avec les gens lambda, quoi. C'est-à-dire que ils vont prendre un jeu, effectivement, comme enfin un Far Cry ou autre. Ils arrivent, ils font « Ah non, il y a trop de trucs, ouais, j'ai arrêté. »
Ils ont l'impression d'être submergés, c'est ça le truc, quoi.
C'est ça, exactement. Alors que Zelda, là, tout le monde... Mais c'est ce qui m'a impressionné en plus avec Zelda, c'est que j'ai plein de... Parce que moi, je suis... Enfin, je travaille dans un service un peu, on va dire, du... Enfin, on gère tout ce qui est Facebook, Twitter, donc c'est un peu la classe, on va dire, C++, bobo cool. Donc c'est il y a plein de gens, plein de petits hipsters, tu vois, qui jouent pas trop, et là ils ont repris Zelda, et enfin alors qu'ils avaient pas joué depuis des années, et ils sont tous à fond, quoi. Donc c'est pas uniquement un système où on dit effectivement on nous laisse une liberté, donc c'est compliqué, c'est justement le fait qu'on te laisse libre et que toi-même tu crées ton aventure, bah ça plaît justement à tout le monde, même si après c'est guidé d'une manière assez intelligente, mais t'as une liberté.
Bah écoute, on espère un Horizon Zero Dawn 2 qui l'orientera un peu du côté Zelda pour tout ce qui est exploration, quoi, on va dire.
Bah clairement, de toute façon tous les devs l'ont dit, hein, que là ils sont en train de prendre des notes, ils ont tous confirmé ça.
Mais par contre, ATH, moi je te confirme que tu m'as donné très envie. Depuis le début, c'est ce qui m'intéresse. Le système de combat dans Horizon Zero Dawn, c'est le truc sur lequel je l'attends. Et c'est aussi ce que je dis, c'est-à-dire que, ouais, bon, Zelda, c'est bien, mais il faut trouver d'autres choses. Et pourquoi Horizon Zero Dawn m'attire, justement? Parce qu'il a ce truc-là, lui, tu vois. Le système de combat, c'est la bonne idée qu'ils ont eue, moi, je trouve. L'idée d'aller chasser des méca géants, d'aller trouver leurs points faibles, etc., de poser des pièges, des machins et des trucs, pour moi, c'est la promesse de départ de The Witcher concrétisée. Et en plus, bon, voilà, il y a des bestioles méca géants, donc ça va forcément me plaire.
Je pense que tu vas pas être déçu par rapport à ça, parce que c'est vraiment son point fort, et c'est le truc original qu'il a par rapport à d'autres jeux. Parce que il y a plein de jeux qui reprennent des jeux en monde ouvert ou ce genre de choses là, et qui font que copier-coller bêtement une recette, alors que là, il copie pas mal, il copie The Witcher, il copie Far Cry, etc. Mais le côté où il y a les combats contre les mechas, et tu dois gérer par exemple ton équipement, ton inventaire en essayant de voir les points faibles de certaines créatures, tout ça, bah c'est pour moi le point fort du titre, et c'est la meilleure chose qu'il fait, en fait. Et du coup, c'est pas un truc foiré, parce que des combats contre des monstres, on en a vu dans plein de jeux et des millions de jeux, mais à ce point là où tu peux démembrer carrément une machine entièrement, c'est pas dans le jeu. Mais donc je vais donner un exemple comme ça qui pourrait être concret. On va dire, admettons, tu affrontes un dragon de métal, et que à la fin le dragon de métal il puisse même plus voler, parce que tu lui as enlevé tout ce qui lui permettait de voler en scannant bien ses trucs et en utilisant ses points faibles, et qu'à la limite à la fin c'est ton jouet, tu vois, il peut juste t'attaquer en te rushant dessus. Bah c'est un truc vachement jouissif. Par contre, le truc qui est quand même reste assez chaud à la fin, c'est que quand il y a une créature ça va, mais quand ils sont plusieurs en même temps, comme je l'ai dit, il y a pas de lock en fait pour cibler les ennemis. Ouais. Et du coup, bah le problème c'est que par exemple s'il y en a un à droite, un à gauche, un devant, un derrière, tu sais pas lequel t'attaque à quel moment. Tu peux vite te retrouver piétiné, et Aloy, c'est quand même une super femme, mais tu vois, elle est pas immortelle non plus. Et d'ailleurs, juste une dernière chose que je voulais dire sur le titre avant de finir.
Oui, c'est que... oui, une dernière chose, parce que il est 20h55.
C'est juste que dans ce jeu-là, la place de la femme est très importante, notamment concernant les tribus, parce qu'il y a plusieurs tribus différentes dans le jeu. Et la tribu de départ, c'est une société très matriarcale, et dans d'autres civilisations, tout ça, qui sont pas mal différentes les unes des autres. Ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Il y a beaucoup de femmes comme personnages importants dans ce jeu-là. Et voilà, du coup, on peut faire un jeu avec des femmes qui se vendent bien, sans voilà mettre des femmes à poil ou en mini-jupe, ce genre de choses-là, pour faire vendre. C'est tout ce que je voulais dire, parce que Aloy...
Incroyable.
Non mais c'est vrai, voilà, Aloy, je trouve que c'est une femme du jeu vidéo qui mérite sa place parmi les plus grands, quoi.
Voilà, bon, sur ce, vous nous excuserez, messieurs, mais on doit y aller. J'aurais mis un peu la pression, là, parce que j'ai un rencard. Allez, ciao à tous.
Oui, loulou.
Ciao.
Salut.